Bonjour à tous et bienvenue dans La Note Originale, l'émission consacrée aux musiques de films. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, comme tous les mercredis, en compagnie de mes fidèles chroniqueurs Anaïs et Henri.
Hey,
salut
tout le monde. Alors oui, exceptionnellement, en fait, Paul n'est pas là aujourd'hui, mais on aura quand même la chronique et la vie de Paul qui va nous faire un enregistrement en différé, voilà, tout simplement. Donc Paul, tu n'es pas là, mais tu es là. Voilà.
C'est vide, espèce de traître. La petite chaise est vide à côté.
Direct, quoi, ça attaque.
Déserteur.
Ça attaque tout de suite. Donc Paul, bien sûr, on l'entendra tout à l'heure pour la partie anecdote et son avis sur le film, bien sûr, dont on va parler aujourd'hui. Juste après, il y aura Henri pour l'analyse de cette BO et analyse. Et Anaïs, pardon.
Anaïs.
Dans quelques instants pour un synopsis et une biographie, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va parler de la suite d'une de nos premières émissions.
Première fois qu'on fait une suite d'un des films qu'on a traité.
Et oui, parce qu'on va parler de Batman le défi. Réalisé. Voilà, Batman Returns, parce que bon, le titre français, Batman le défi.
Le Returns du défi.
Voilà, le Return des défis.
1992. Voilà.
Exactement, Anaïs. Et puis réalisé par Tim Burton et composé par ce fameux Danny Elfman. Deux fois
l'homme,
aussi
l'homme
que.
Elf.
Ouais. Pardon. Elf, quoi. Ça ferait plaisir
c'est
à toi.
En plus, c'était la Saint-Patrick il n'y a pas très longtemps. Donc,
ouais, bah voilà. C'est ça. Donc, tu vois. Non, et deux fois qu'on les retrouve, parce qu'on les avait déjà étudiés, donc du coup, pour Batman, une de mes premières émissions de 89, et Edouard aux mains d'argent, aussi, pas très loin après. Donc, on les retrouve, ces joyeux lurons-là. Voilà.
Joyeux, je sais pas, mais.
Les gothiques lurons là.
Ouais,
mais
très gothique, hein.
Alors, on va en parler avant de donner notre avis, de parler de la BO, parler du film. On va bien sûr s'écouter un premier extrait. Donc, il s'agit du
Terminator 2. Pardon. Voilà. ça faisait longtemps, je suis désolé.
Donc, on va mettre le thème d'ouverture du film où on retrouve le thème iconique de Batman. Donc, c'est la partie 2 parce que la première, on commence un peu par le thème du pingouin.
Oui.
Au tout départ dans Batman, donc pour éviter de vous mettre 7 minutes de musique, voilà, on a mis la partie 2. Donc, dans le ciel enneigé de Gotham City, le bat-signal apparaît et avertit les criminels qu'il vaut mieux s'abstenir s'ils ne veulent pas rencontrer la peur. Ce justicier et protecteur de la ville, le chevalier noir qu'on surnomme Batman.
We'll be right back.
Nous sommes de retour sur RPL Radio 99.0 FM et DAB+, dans la note originale. Vous venez d'écouter ce premier extrait du film Batman le défi, composé par Danny Elfman. Et on passe sans plus attendre à un synopsis d'Anaïs pour nous apporter un peu plus de contexte, au cas où si vous n'aurez pas vu encore ce film de 92 de Batman de Tim Burton, ou si on vous rafraîchit la mémoire. Je t'en prie, Anaïs.
Merci. Abandonné à la naissance par ses parents à cause de sa difformité, Oswald Cobblepot grandit dans les égouts de Gotham City parmi des pingouins et une troupe de saltimbanques. Des années plus tard, il émerge des entrailles de Gotham devant la foule et kidnappe l'homme d'affaires Max Schreck. Oswald souhaite qu'il l'aide à devenir maire de Gotham et rétablir la justice et la compassion qu'il n'a pas eu étant enfant. Pendant que Batman tente de comprendre ce que cache le plan d'Oswald Cobblepot, Selina Kyle, timide secrétaire effacée travaillant pour Shrek, découvre la preuve des intentions peu louables de son patron. Ce dernier tente de l'assassiner en la jetant dans le vide, mais Selina survit miraculeusement. Ressuscitée, Selina n'est plus la même et prépare minutieusement sa vengeance.
Ouais, totalement, ouais. Oui, parce qu'on
Max Shrek, hein, pas Shrek. Pas le gros bonhomme tout vert.
Non. Oui, bien sûr, oui. Oui,
oui. Moi aussi, j'ai pensé à ça.
Non, mais oui, effectivement, c'est la suite hein, directe du coup de Batman de 1989, réalisé par Tim Burton, toujours aux commandes. Alors, sur un contexte différent, puisque celui de 89 s'était très mal passé pour les studios Warner et Tim Burton, qui ne voyait pas du tout d'un même œil, en fait, pour divergence artistique, hein, tout simplement. Du coup, on a effectivement, à mon sens, un film qui est un peu plus abouti au sens de la vision de ce que voulait Tim Burton dans ce deuxième opus. Et en plus de ça, on est gâté. On a non pas un, mais deux vilains supplémentaires. Donc le pingouin, Oswald Cobblepot et Selina Kyle, Catwoman. Voilà.
En fait, ce qu'il y a surtout, c'est que le premier, il a déjà des débuts d'Oripo, on va dire, de Burtonien. Mais le 2, pour le coup, est vraiment un vrai film de Burton. Mmh. Tu le sens même au niveau du travail de la photographie, en fait, je trouve. Mmh. Mmh. Les deux ont une approche photographique très différente. Et les deux le disent, hein, de toute façon, que ce soit Elfman ou Burton. Les deux disent que, en fait, c'est à partir de celui-là qu'ils ont vraiment fait ce qu'ils voulaient. C'est vraiment là qu'ils se sont le plus amusés. Parce que là, les films sont vraiment devenus ce qu'eux, ils avaient envie de faire. Et de toute façon, même si tu retrouves quelques éléments constitutifs, c'est vraiment le 2 qui va aller le plus dans l'extrême, en fait, tu vois, dans le travail sur le frics, le travail sur le gothique, sur cette espèce de mélancolie, sur le travail sur l'identité, sur l'acceptation. Enfin, tu vois, t'as énormément de thématiques qui, là, sont réellement présentes. Et ça dépasse totalement, en fait, de façon à l'heure actuelle, que ce soit pour Elfman ou Burton, ça reste le film qui est considéré comme étant le point d'orgue, en fait, de leur carrière. Hein,
ce qui est pas mal, c'est que ça mélange, tu vois, vraiment la cruauté, aussi l'érotisme un petit peu, et un petit peu beaucoup. Et,
complètement, ouais.
Voilà. Ouais. Et la violence, la cruauté, la violence, mais... ce qui est sympa, c'est qu'il a. J'ai l'impression que Tim Burton n'a pas voulu nous faire des scènes. Allez, je te tape dedans tout le temps. C'est vraiment assez dosé, justement. Et
quelque chose d'assez psychologique aussi.
Ouais, il va plus rechercher le côté.
C'est noir, ouais.
C'est
vrai,
profond.
C'est pas faux, parce qu'on a la sensation, quand on compare au premier, bien sûr, d'avoir un Batman beaucoup plus noir, beaucoup plus moins souriant que dans le premier film.
Déjà, Burton, en son temps, commence à faire un truc avec un personnage très taciturne, très sombre, et qui s'incline beaucoup plus justement dans les visions du super-héros dans les années 80, et donc en particulier du Batman de Miller.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui entre le noir et le bleu au niveau des lumières, qui tranche. Avec les lumières artificielles qui sont très froides. C'est super intéressant, ça. Enfin, le pingouin, le fait qu'il soit en noir, s'il y a un effet bleuté, enfin noir corbeau, donc bleuté. Batman aussi avec son costume, Catwoman avec sa combinaison hyper brillante et luisante.
Oh, ouais, la photo, elle est géniale. Hein.
C'est incroyable.
La photo, la lumière, elle est géniale dans celui-là.
Et les scènes, moi, qui m'avaient marqué visuellement, c'est la partie de Catwoman où elle se transforme.
Ouais, l'appartement.
Génial.
L'appartement
ça.
Où...
Quand on fait en deux fois, en fait. C'est deux fois la même scène, mais avec un coup Selina, un coup Catwoman, quelque part.
Alter
ego qui revient.
C'est ça, c'est ça. Il y a la scène de l'appart, là, où elle pète un plomb.
C'est ça.
Et tu vois qu'elle a ce côté... très sage, très réservé d'elle d'avant, et ce côté bestial qui se réveille et qui se révolte.
Oui, en tout cas, voilà, Tim Burton a été beaucoup plus loin dans ce film-là, avec le pingouin aussi, génial, Danny DeVito.
Excellent dans le film.
Paul, il y a certainement une anecdote que tu veux nous dire. Donc,
Bonjour mes chers collègues, et aujourd'hui je suis ravi de parler de ce film. Parce que Batman Returns, pour moi, c'est vraiment... C'est un film particulier dans l'univers même de Batman. Je trouve que c'est la prolongation de l'univers burtonien du premier, mais on dirait qu'il est bien plus libéré d'un poids, et il pousse son univers bien plus loin. C'est-à-dire que que ce soit le pingouin, Catwoman, tous ces personnages sont tellement burtoniens, et je trouve que ça rend très très bien. Même l'aspect de Gotham, très gothique, pardon, du jeu de mots, hein, où ce début, cette intro avec un Christopher Walken au top de sa forme, bon, forcément, hein, un ancien méchant de James Bond, je ne pourrais vous en dire que du bien, mais il est particulièrement efficace.
Il y a quelqu'un aussi qui, forcément, Danny Elfman, qui magnifie un petit peu tout ça, qui là, pour le coup, lui aussi, va un peu plus loin. On sent que quelque part, sa collaboration avec Tim Burton, elle est souvent en fait au même niveau. Si Tim Burton va loin, Danny Elfman le suit, et inversement. Et du coup, là, la composition, enfin, en tout cas, moi perso, je la trouve beaucoup plus aboutie, beaucoup plus développée que dans le premier opus. Et on avait déjà parlé à deux reprises de Danny Elfman, mais on va faire une petite biographie rapide qu'Anaïs nous a préparée. Donc, je t'en prie, Anaïs, pour cette petite biographie de Danny Elfman, le compositeur de Batman Returns, Batman, le défi.
Le défi.
Voilà.
Ok. Fils d'un pilote de l'US Air Force, c'est dans la Cité des Anges, Los Angeles, qu'il passe la majeure partie de sa jeunesse. Passant une grande partie de son temps libre dans les cinémas de LA, le jeune Danny, qui se rêve déjà en réalisateur, développe très vite une acuité particulière pour l'habillage sonore des films, et montre, très jeune, une sincère admiration pour Bernard Herrmann. Intuitivement, Elfman commence à appréhender le concept de la fusion nécessaire entre un film et son environnement musical. C'est tout naturellement qu'il se lance lui-même dans la musique, sans prendre la peine de passer par la case solfège. Autodidacte surdoué, Danny Elfman est et restera un intuitif misant davantage sur la spontanéité créative, l'ambiance sonore et l'approche globale autant que fusionnelle entre image et son, que sur le strict respect des partitions. Après avoir été intrigué par une précédente composition de Elfman, le réalisateur Tim Burton le contacte pour les besoins d'un projet qu'il porte avec l'animateur de télévision pour enfants, Paul Reubens. Elfman accepte de contribuer au métrage, mais une fois celui-ci mis en boîte, regrette d'avoir contribué à gâcher le film par ses musiques. Grossière erreur, le film est un succès à travers tous les États-Unis et une solide amitié s'installe entre Burton et Elfman, et qui continue 16 films plus tard, de 1988 à 2019. On retient notamment Beetlejuice, Batman, Édouard Romain d'Argent, Mars Attack, Sleepy Hollow, Big Fish, Charlie et la Chocolaterie, et dernièrement Dumbo. Puisant son inspiration aussi bien dans le punk rock que chez les compositeurs classiques, Danny Elfman commence à devenir un auteur apprécié par certains mouvements, notamment les gothiques, qui se retrouvent en phase avec ses musiques de films. Qu'est-ce qu'il y a ?
Ah bah non, mais c'est totalement ça. De toute façon, c'est les
ados
quoi.
C'est ça.
J'ai rien contre, hein, mais oui, c'est ça.
S'il est amené à travailler pour Warren Beatty, pour Dick Tracy ou Clive Barker, Nightbreed, Danny Elfman commence dès 1990 à travailler avec un autre réalisateur dans la lignée de Burton avec qui il entame une collaboration riche, Sam Raimi. Propulsé par le succès d'Evil Dead, Sam Raimi collaborera avec lui sur bon nombre de succès comme Spider-Man en 2002. Réclamé par tout Hollywood, Elfman collaborera avec des cinéastes prometteurs et confirmé comme Gus Van Sant, Brian De Palma, Peter Jackson, Barry Sonnenfeld, Rob Marshall et Ang Lee. Danny Elfman, fou de musique, est parvenu à force de talent et surtout d'instinct musical de se hisser au niveau de ses confrères légendaires que sont John Williams et Ennio Morricone.
Merci beaucoup pour ce synopsis et cette biographie. Oui, forcément, Danny Elfman qu'on ne présente plus puisque c'est un énorme compositeur qui a fait je sais pas combien de films, au moins une centaine, facile.
Puis série TV.
Puis série ouais. Télé, on l'a pas cité bien sûr parce qu'on l'avait déjà cité auparavant, mais les Simpsons également, la série TV Batman,
Les Contes de la Crypte,
Futurama,
Desperate Housewives.
On l'avait dit dans l'autre.
Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on va passer directement à un second extrait. Il s'agit du titre Selena Transform Part 2. Donc c'est dans ce second extrait dont parlait Anaïs tout à l'heure qu'on retrouve Selena Kyle qui rentre chez elle complètement transformée, complètement ailleurs et possédée par cet esprit, on va dire, de Catwoman. On va le dire comme ça, même si c'est pas du tout ça. Elle n'est pas possédée du tout dans le film, mais on sent que c'est plus du tout la même personne, qu'elle a changé ou qu'elle s'est révélée.
C'est plus ça,
ouais. Fouet, griffes acérées, combinaison en latex noir et regard noir, il ne vaut mieux pas croiser la route de l'ombre qui erre avec discrétion dans les ruelles de Gotham. Je ne parle pas de Batman, mais bien sûr de celle qu'on nomme Catwoman. Nous sommes de retour sur RPL Radio 99.0 FM et DAB+ aussi également. Vous êtes dans la note originale, vous venez d'écouter ce second extrait musical du film Batman le défi, composé par Danny Elfman. Et on passe sans plus attendre aussi aux anecdotes de Paul que vous allez entendre, qui n'est pas là actuellement, Paul avec nous, mais il nous a fait un petit enregistrement avec les anecdotes du film. Donc on t'écoute Paul, c'est parti.
Et aujourd'hui, pour mes anecdotes... Je souhaite commencer par citer Jack Nicholson, parce que c'est grâce à Jack Nicholson que nous avons eu Danny DeVito, à savoir le pingouin dans le film. C'est également Burgess Meredith, qui était connu pour avoir incarné le pingouin dans la fameuse série Batman des années 60, cette série extrêmement kitsch, ou encore l'entraîneur de Rocky, Mickey. Il avait été contacté pour jouer le père de Danny DeVito, donc le père du pingouin que l'on voit au tout début du film. Cependant, il était gravement malade et n'a pas pu réaliser le projet. C'est donc Paul Rubens qui l'avait remplacé. Paul Rubens étant l'acteur qui avait travaillé avec Tim Burton sur Pee-wee's Big Adventure, qui est une horreur de film. Ne regardez jamais, vraiment jamais ce film. Et alors cela relève moins d'une anecdote, mais j'ai remarqué une scène. Lors du bal costumé, seul Bruce Wayne et Selina Kyle ne portent pas de masque. Or, Selina Kyle est Catwoman. C'est donc la seule scène où, au moment où ils devraient être masqués, ils ne le sont pas. C'est-à-dire que lorsque tout le monde se masque, ils ne sont pas masqués. Lorsque, dans la rue par exemple, personne n'a le visage couvert, eux l'ont. Cela traduit donc, selon certaines théories, le fait que Batman et Catwoman sont en fait leur vraie identité et leur vraie personnalité, et que dans le monde réel, eux ne s'y sentent pas à l'aise et ne se sentent bien que dans leur anonymat. Pour conclure sur une petite anecdote Happy Meal, savez-vous que McDo a boycotté le film ? En effet, lorsque le film est sorti, McDo avait déjà une grande campagne de publicité et une grande campagne de petits cadeaux offerts dans les Happy Meal à propos de Batman le défi. Seulement, quand ils ont vu le contenu du film qui est noir, violent, avec un univers qui n'est pas du tout approprié aux gens à qui se destine le Happy Meal, ils ont décidé de complètement snobber la production et de changer drastiquement les dotations qu'il y avait dans les Happy Meal, puisqu'on est passé à des petites figurines se rapportant davantage au premier film, voire même à plus rien du tout dans certains McDonald's. C'en est fini pour moi, donc je retourne donc me terrer dans ma Paul cave, et je reviens tout à l'heure pour vous dire au revoir.
Merci beaucoup Paul pour ces anecdotes. Merci beaucoup Paul pour ces anecdotes. Oui, tu n'es pas là, mais tu es là avec nous. Mais du coup, voilà, on va passer. Merci beaucoup pour ces anecdotes.
J'ai dominé anecdotes rigolotes.
Ah, il y a des anecdotes supplémentaires.
Max Schreck, le nom du méchant est une référence à un des films préférés de, enfin si je ne me trompe pas, de Burton, qui est Nosferatu, puisque Max Schreck était le nom du comédien qui prêtait ses traits pour le vampire. Et également il y a une anecdote très drôle autour de Sean Young, qui donc jouait dans Blade Runner, oui, qui voulait absolument le rôle et qui était une des actrices qui était pressentie, et en fait elle a perdu le rôle parce qu'un jour elle voulait tellement avoir le rôle qu'elle est arrivée pendant dans une des réunions à la Warner, mais elle était habillée genre tout de cuir vêtue, et elle est arrivée comme ça en mode furie dans la salle en faisant un peu nimp. Et en fait, ils ont flippé, ils se sont dit, en fait, elle est tarée, on peut pas lui donner le rôle. Et il y a eu, je sais plus quelle anecdote, je sais plus si elle s'est blessée ou s'il y a un truc comme ça, mais en gros, le fait est que finalement, elle a pas eu le rôle et qu'elle était pas très contente et qu'elle a vociféré pendant un certain temps.
Ouais. Bien sûr. Donc voilà, du coup, on passe à l'analyse de cette BO, cette délicieuse BO de Danny Elfman. Je sais pas si délicieuse est le bon argument, mais en tout cas, c'est de superbe BO, on va dire.
Écoute, pourquoi pas, hein. Du coup, 88-92.
Ouais.
88-92, je parle bien de 1998-1992. Hein. C'est quand même un peu the période de Burton.
Ouais.
Puisque c'est 5 années avec 4 films, 4 gros chefs-d'œuvre absolument indétrônables, indéboulonnables. De par la maestria, dans son utilisation de la grandiloquence, la poésie noire, l'humour macabre, l'émotion, mais aussi sa vision déjà très clairement satirique et acide de la société, des suburbs, des corporations, etc. Soit les 9 vies du chat Burton avant qu'il ne commence à doucement les cramer bien comme il faut 10 ans plus tard, avec quelques exceptions près, mais quand même. Si ces 5 années lui ont été profitables, elles vont également assurément l'être pour Danny Elfman, donc son alter ego musical, du moins encore à cette période, parce que justement 10 ans plus tard, Elfman sera justement quasi le seul à faire remonter la barre des films, du genre pour Alice, qui est une des meilleures BO de Elfman pour Burton, mais l'un des pires Burton pour Elfman.
Ouais, oui,
notamment
oui,
avec la jolie danse à la fin du film.
Génial.
C'est catastrophique. Et ici, donc, on est dans la quintessence, dans le très haut du panier, voire le magnum opus, comme on dit, de la carrière d'Elfman, car rarement une de ses œuvres n'aura à ce point su réinventer son œuvre génitrice, transcender son film et marier avec une telle fluidité de dingue le terme est clairement à propos pour le film dont on parle, et est marié après mélancolie, poésie funeste, théâtralité voire opératique, folie furieuse, émotion estomacante, grandiloquence exacerbée, action tonitruante et belliqueuse, et j'en passe des bagarres, comme si en gros Danny Elfman avait composé cette BO aussi comme si c'était la dernière de sa carrière en fait. Il a vraiment été à donf. Alors pour le premier film, je sais pas si vous vous souvenez, Elfman avait tout à prouver et tout à perdre. Encore une fois, on vous invite à retourner écouter notre émission sur le film. Il composait alors une espèce de nouvel hymne martial en guise de thème, de déclaration de guerre du personnage titre au crime, rebattant les cartes pour les années à venir quant au scoring super-héroïque, puisqu'à l'époque, la seule grosse référence était donc le Superman de John Williams. Le thème apparaissait donc complètement implacable, gothique, triomphant et déterminé, et le score faisait donc la part belle à l'aura écrasante du Dark Knight. Comment aborder alors la suite? Moi, je vais vous le dire. tout simplement en déstructurant son travail précédent, quitte à détrôner son personnage titre, car ce ne sera pas un personnage principal, mais bien trois qu'Elfman illustrera musicalement, chacun ayant une aura différente, mais également chacun possédant une psyché torturée et tragique, soit trois personnages beaucoup plus proches les uns des autres qu'il n'y paraît. Mmh. Les parallèles d'ailleurs dans le film pleuvent un petit peu tout le temps. Et pour mettre en place cette idée mécanique, Elfman, va à nouveau mettre à profit un savoir-faire dont il va se faire maître par la suite, l'écriture thématique et l'utilisation étourdissante des leitmotivs dans une tradition des plus wagnériennes qui soit. Pour cet opus, leitmotiv, thème et couleur orchestrale se mettront au diapason de cette tragédie burtonienne et dont la déconstruction dont je parlais il y a un instant démarrera dès l'ouverture du film. Si dans le premier, l'introduction se proposait de circuler dans des couloirs étroits, symboliquement l'esprit brisé de Bruce Wayne, avant de révéler en fait le relief du logo de Batman, l'ouverture musicale suivra la même logique pour cet opus, donc pour Returns. Le premier personnage de ce drame super-héroïque à être présenté sera donc le Pingouin, aka Oswald Cobblepot. Tout le premier plan musical lui sera dédié dans une ouverture à la dramaturgie et au lyrisme gothique grotesque, d'emblée foudroyante, avant de laisser place au fameux thème du détective de Gotham. Mais quelque chose qui cloche. Le thème qui était autrefois fracassant paraît désormais bien plus tourmenté, voire parasité par des sonorités extérieures, hanté presque, finalement, par des voix que l'on associera après bien plus au Pingouin. Les labyrinthes du premier film, ici, laissant donc la place aux non moins labyrinthiques entrailles de la ville, les égouts, où ce Moïse pathétique, Efrix, se verra sauvé des eaux par des pingouins, donc sa nouvelle famille. Dit comme ça, ça paraît couillon, mais en fait, dans le film, ça marche très très bien. Et donc, en 7 minutes, là où on a entendu que la deuxième partie, le morceau que tu as diffusé tout à l'heure, Umberto, en 7 minutes, Elfman installe une construction dramatique, indiquant instantanément que le personnage principal autour duquel tous les aspects dramaturgiques de cet opéra grotesque ne sera pas Batman, mais bien le Pingouin. C'est d'ailleurs peut-être en ce point que réside un des points les plus intelligents des opus burtoniens du Cape Crusader, à savoir ne jamais faire de son personnage titre le véritable personnage principal du film. C'était déjà le cas dans le premier avec le Joker. À cette équation s'ajoutera la non moins tragique destinée de Selina Kyle, aka Catwoman, dont le thème reflètera le désespoir, mais aussi la révolte, l'instabilité et la mutation psychologique, soit un véritable point d'orgue et un point de bascule pour le perso. Trois personnages se confondant sous leur masque, d'où la fameuse question à un moment donné, mais quelle est la véritable identité de ces personnages-là pour eux, finalement? Et c'est pour cette raison que jamais aucun des trois personnages ne sera traité avec moins d'importance que l'autre, et chacun bénéficiera d'une vraie empathie, le seul véritable monstre, la seule véritable ordure étant Max Schreck, l'industriel, l'espèce de politique véreux qui tire pas mal de ficelles en dessous. Pour raconter son histoire à lui, Elfman, je parle bien musicalement, Elfman, en plus de créer un développement thématique complet, mélodiquement parlant, pour ces trois protagonistes, il va y accoler également une panoplie de signes distinctifs, donc des trompettes triomphantes pour la chauve-souris, pizzicato et cordes reptiliennes et mystérieuses pour Catwoman, orgue de barbarie pour les troupes frics du Pingouin, etc., chacun possédant de même une dynamique propre. Donc c'est un véritable travail d'orfèvre, hein, dense et assez hallucinant, qui va être d'une fluidité remarquable, tant la cohérence narrative et thématique s'impose avec un naturel désemparant. Mais dans ce second opus, point d'héroïsme, mais une sorte d'agonie lyrique d'un Batman brut toujours en proie au doute, d'une Selina Kyle à la transformation musicalement douloureuse, plaintive et tragique en Catwoman, d'un Pingouin rejeté par ses parents, envoyé dans des eaux crasseuses, avant de, spoil, périr dans une scène assez bouleversante et poignante avant d'être redéposé dans les mêmes eaux par sa famille de substitution. La scène est sublime, moi ça me... Elle me défonce et le morceau est sublime en fait. Soit en fait un opéra où chacun de ses protagonistes dysfonctionnels cherche avant tout à savoir qui ils sont et en définitive à être accepté par les leurs, tout en prenant leur revanche sur cette société déliquescente dont la normalité n'est véritable que l'apparence. Soit ne jamais se fier aux apparences. À l'époque, cette question allait être également traitée, j'en avais déjà parlé sur l'émission sur les deux Romains d'Argent, vous pouvez également aller les réécouter. Elle allait être traitée par deux fois par le duo Burton-Elfman, c'est-à-dire des personnages en gros qui ont en fait une envie par rapport à la société, mais t'en as un qui va être ramené vers la société pour avoir envie après de s'enfuir, et l'autre qui va vouloir retourner vers cette société, mais pour la parasiter de l'intérieur. Donc la question, d'un côté, elle va être traitée de manière cristalline et féerique avec Edo en main d'argent, et ici de manière sombre et désenchantée pour ce Batman Returns, au travers du personnage du pingouin. Et donc je parle toujours musicalement, et aussi thématiquement. Si la tonalité diverge, l'émotion, elle, est intacte dans ce double effort presque schizophrène, où Elfman et Burton eux-mêmes tentaient peut-être de savoir qui ils étaient à l'époque. Et aujourd'hui, bah, on peut le dire, on sait qu'ils sont bah, deux poètes absolus. Enfin, l'un plus que l'autre désormais quand même.
Oui, en effet. Et puis c'est vrai que quand on y repense, le premier Batman n'a pas été fait à la suite du deuxième. Donc, entre temps, il y a quand même eu Edouard Marre d'Argent.
Oui, il y a eu pas mal de choses entre deux.
Donc,
Burton a fait quelques trucs, mais Elfman a plus bossé que Burton entre les deux.
Donc, peut-être qu'il y a aussi pour Elfman aussi un peu plus d'expérience entre temps. Le film, en fait, est encore aujourd'hui, passe encore très bien. Que ça soit à l'image, que ça soit à la musique, elle s'écoute très bien toute seule également. On est dans quelque chose de très opératique, très tragique, très, très Gotham en fait. Mm-hmm. Bon, mais merci à vous deux, hein, tout simplement. Merci encore à Paul pour la chronique à distance. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, bien sûr. Toujours même créneau, même heure sur RPL Radio, en 99 FM. Le site internet et DAB+ également. Vous pouvez retrouver cette émission si vous êtes déjà pas en train de l'écouter sur toute notre plateforme Spotify, Mixcloud, etc. Et puis, pour se quitter, notre petit slogan de la fin.
Surtout n'oubliez pas d'écouter
des films. Quelle coordination, c'est génial.
C'est parfait.
Une bonne journée à tous.
Au revoir, à la prochaine.